appelait ce message la grande illustration. Dans le texte, ça dit le grand mystère, mais on avait déjà traité le grand mystère au chapitre 3, donc pour ne pas avoir deux fois le même titre, on a pensé à la grande illustration. Le texte ici au verset 32 parle du grand mystère. Dans le Nouveau Testament, le mystère renvoie à une réalité qui était cachée dans le passé et qui est révélée à présent au travers des Saintes Écritures. Le mariage, et c'est ça le mystère, le mariage est le reflet sacré du merveilleux et magnifique mystère de l'union du Messie, de Christ, avec son Église. Et ça, c'était une notion totalement inconnue dans l'Ancien Testament. Au verset 31, Paul cite l'institution du mariage. En Genèse, chapitre 2, verset 24, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ici, les mots que Dieu emploie pour décrire l'union du mariage, il dit il faut se séparer, quitter. Et ça, c'est émotionnellement, matériellement, de toute manière possible, pour s'attacher. Et là, c'est l'idée d'être collé avec une colle forte. Vous savez, ce genre de colle que vous n'arrivez jamais à dissoudre. Si vous essayez de séparer, vous ne décollez pas, vous déchirez. Et ça, ça nous montre que lorsqu'on cherche à séparer ce que Dieu a uni, ça fait très très mal. Et chacun qui est passé par ces choses le sait combien c'est douloureux. Et personne ne le souhaite. Dans notre texte, il est en train de dire que Dieu, dans l'institution du mariage, voulait préparer les cœurs à une union plus glorieuse et plus permanente. Imaginez la chose. Dieu, au commencement, il crée l'homme et la femme et il dit « Je vais les unir » d'une manière que cette union puisse refléter une union plus grande et plus glorieuse que je veux pour les hommes, c'est-à-dire l'union de Christ avec son Église. Ça veut dire que le message de l'Évangile est prêché dans Genèse chapitre 2, verset 24, avant même la chute. Et pour tout le restant de l'humanité, Dieu veut que ce message soit répété et répété dans nos cœurs. Que cette illustration, chaque fois qu'on célèbre un mariage, nous réalisions, c'est le plan de l'Évangile que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et chaque fois que l'on vit le mariage, on puisse se souvenir que nous sommes en train de remettre en scène un message plus glorieux que simplement l'union de deux pécheurs, mais celle de Jésus-Christ avec son Église par l'Évangile. Il dit, comme le mari et la femme ne forment plus qu'une seule chair, Jésus et son Église ne forment plus qu'un seul corps. Jésus est la tête, l'Église le corps. Une seule chair, un seul corps. Jésus est la tête du corps de l'Église et le mari est la tête du corps de son couple. Lorsque le mari prend soin de son épouse, il prend soin de lui-même. Dans notre texte, et j'aimerais peut-être préciser ça, dans notre texte, c'est dit que le mari est le chef de la femme. Le mot grec, c'est képhalē. Képhalē, c'est la tête. Ceux qui ont des céphalées, le savent. Képhalē, c'est la tête. Et le principe de la tête, c'est qu'elle est jointe au corps. Ça ne marche pas bien sans. Ça veut dire que le mari est la tête du corps. C'est pas comme s'il y a un chef et un subordonné. Il y a une tête et un corps. Et on ne peut pas nuire à son corps sans nuire à l'ensemble. On ne peut pas nuire à son épouse sans nuire à l'ensemble, à soi-même. Et Christ prend soin de son Église parce qu'il ne veut pas nuire à lui-même. Christ, il prend soin de son Église, et en prenant soin de son Église, il prend soin de lui-même. Le mari, quand il prend soin de son épouse, il prend soin de lui-même. Et quand l'épouse prend soin de la tête, elle prend soin d'elle-même. Vous voyez un peu le lien qui nous est donné ici. Lorsque le mari blesse ou néglige son épouse, il se nuit aussi à lui-même. Quand l'épouse cherche à usurper l'autorité dans son couple, elle se nuit à elle-même. Et donc si le mariage sait illustrer l'évangile, c'est rejouer l'évangile en permanence dans nos foyers, alors je voudrais tirer juste trois pensées tout de suite. D'abord, si c'est cela le message, si c'est cela l'enjeu, alors vous voyez la force et la puissance d'évangélisation que le mariage biblique représente. Vous ne pourrez pas annoncer avec plus de force le message de l'évangile à votre entourage et en premier lieu à vos enfants. Je pense à tous ceux qui étaient là sur l'estrade il y a quelques instants. Si vous voulez prêcher l'évangile à vos enfants, vivez un mariage selon Dieu. Rejouez l'évangile constamment sous leurs yeux, tous les jours de votre vie. Le mari joue le rôle de Christ et l'épouse joue le rôle de l'Église. Deuxième pensée, vous voyez aussi l'énorme responsabilité confiée à deux pauvres pécheurs de rejouer une scène d'amour sublime que Dieu a jouée. Et c'est là que nous comprenons l'introduction des versets 18 à 21 sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, vous comprenez également pourquoi le mariage en tant qu'institution et les mariages en tant que nos mariages, en tant qu'illustration de l'évangile, font l'objet des attaques incessantes du diable, l'ennemi de l'évangile, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de nos âmes. Et s'il pouvait détruire l'institution du mariage en la dévoyant, comme certains essayent de le faire avec le mariage entre personnes du même sexe, ou de supprimer la notion d'engagement par une union libre, sans responsabilité, sans engagement. S'il pouvait corrompre les mariages et les détruire, il porterait un coup à l'image de l'amour impérissable de Christ pour son Église. Et c'est cela l'enjeu des couples. Alors je voudrais répondre ce matin à trois questions. La première, quel est le but premier du mariage? Quel est le but premier du mariage? Si nous pouvons établir le but poursuivi par Christ dans son amour pour l'Église, nous allons pouvoir aussi établir le but qui doit être poursuivi dans le mariage. Et là, au verset 27 de notre texte, il est dit que Christ s'est livré lui-même pour l'Église, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ça. Le but de Dieu, par l'Évangile, c'est de se préparer une épouse, tirer du péché et l'amener à sa ressemblance d'une manière glorieuse, sans tache, ni ride. Ces termes décrivent l'amour de Christ pour son Église. L'œuvre de sa grâce est pour sanctifier son Église, afin de la présenter un jour, comme lui, glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irréprochable. Le mariage n'est pas en premier lieu pour votre bonheur. Alors là, peut-être ça. Je répète, le mariage n'est pas en premier lieu pour votre bonheur, mais pour votre sanctification. Et c'est la sanctification c'est-à-dire la délivrance de la puissance du péché, et qui nous rend heureux. Vous voyez la chose? Donc, on va être heureux dans le mariage, dès l'instant où le mariage sert le but premier, savoir notre sanctification. Ce qui nous rend malheureux, c'est l'esclavage du péché. Et donc, c'est d'être délivré de cet esclavage qui va nous rendre heureux. Le mariage, c'est un révélateur de péché. C'est terrible. Mais c'est un révélateur de péché. N'oubliez jamais ça. Le mariage, un révélateur de péché. C'est-à-dire, vous avez deux jeunes pécheurs qui font tout pour passer aux yeux de l'autre pour quelqu'un de bien. Vous voyez? Ils sont toujours à l'heure, toujours souriants, toujours bien disposés, toujours bienveillants. Lui, bien propre sur lui, elle, bien coiffée, maquillée, habillée. Lui, c'est un vrai gentleman, attentionné, prévenant. Elle, elle est d'une gentillesse remarquable. Et aux petits soins, toujours joyeuse. Bon, on se dit, ceux-là, ils sont tellement mignons. Ils vont tellement bien ensemble. On va les marier. Et on les marie. Ils sont faits l'un pour l'autre. Un an passe, deux, trois. Et là, la lune de miel est passée. En fait, lui, le gentleman, il se révèle plutôt goujat à certaines heures. Et la charmante demoiselle, si serviable, elle se révèle parfois terriblement égoïste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on n'a pas épousé la bonne personne. Dieu s'est trompé. Non, le mariage a simplement joué son rôle de révélateur de péché, révélateur de ce que nous sommes véritablement. Vous avez pu cacher ça à vos collègues, vous aviez pu cacher ça peut-être à vos frères et sœurs de l'Église, mais vous êtes vraiment comme ça devant votre conjoint. Vous êtes ça. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et c'est maintenant que ça commence, dans le mariage. Comment Jésus procède dans nos vies lorsqu'il dévoile en nous le péché? Est-ce qu'il nous quitte? Est-ce qu'il nous laisse tomber ou nous abandonne? Non, ce n'est pas ce qu'il fait. La Bible dit qu'il nous lave par l'eau de sa parole. Il applique les principes de la parole à nos vies. Par elle, il renouvelle notre intelligence, notre compréhension de sa volonté. Il révèle la grandeur de sa grâce, de sa bonté. Il rappelle l'efficacité de son sang et la puissance de son pardon. Et verset 25 dit, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. » Verset 28, « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. » C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Marie, prenez à cœur la parole de Dieu pour vous-même et pour la transmettre à vos épouses. Servez-les. Rappelez-leur l'Évangile. Rappelez-leur la croix. Rappelez-leur la résurrection de votre Sauveur. Rappelez-leur le pardon qui nous est offert en Christ. Rappelez-leur la grâce à qui nous a été donnée. Et vous, épouses, ne leur prêchez pas un message en trois points, comme ils viennent de faire. Ne leur prêchez pas un message en trois points, parce que ce serait une manière d'usurper l'autorité dans votre couple. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais alors, comment leur prêcher? Comment les aider? Ne leur prêchez pas, c'est vraiment, je peux vous le dire, c'est tout à fait improductif, contre-productif même. Mais comme dit l'apôtre Pierre, vous de même, femmes, soyez soumises, chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Et vous avez un beau message à délivrer. Et le message de vos vies, il est puissant, je peux vous assurer. Alors continuez à aimer vos maris, à prendre soin d'eux, même s'ils ne vous le rendent pas immédiatement. Dieu travaillera leur cœur. Dieu manifestera la puissance de son évangile de cette manière. Le mariage, c'est un révélateur de péché. Mais le mariage, et c'est cela qui est merveilleux, offre un cadre d'amour qui permet aux deux conjoints de progresser dans leur ressemblance à Jésus-Christ. Dans le mariage, c'est cela qui est merveilleux. C'est qu'on peut venir se demander pardon. On peut prier l'un pour l'autre. On peut s'encourager réciproquement dans cette sanctification. Donc le premier but du mariage, notre sanctification. Maintenant, quels sont les rôles de chacun? J'ose relire verset 22. Que chaque femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Alors voilà en schéma ce que ça donne. Marie, vous êtes là. Votre rôle, c'est de donner une direction à votre foyer, d'être la tête, mais une tête comme Christ, humble, tendre. Épouse, vous devez être un soutien pour votre mari. Ici, ça dit, dans notre texte, ça dit, vous devez être soumise. On ne veut pas atténuer par le mot soutien cette notion de soumission. Mais on veut faire comprendre que la soumission, ce n'est pas quelque chose de servile. C'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose de choisi. C'est quelque chose de désiré. C'est quelque chose de joyeux pour le bien, pour le service du couple. Et donc c'est un soutien intelligent et joyeux. C'est sûr que c'est pas populaire. Hein. Vous ferez pas trop d'amis avec ce message en prêchant ça à vos collègues. Jusqu'au jour où ils comprennent ce que ça signifie véritablement. Parce que si Dieu nous a créés, il nous a créés aussi pour entrer dans ces rôles. Alors, ne croyez pas, mesdames, que c'est plus facile d'être un mari qui dirige que d'être une femme qui est soumise. Ne croyez pas cela. Les deux sont terribles à vivre. Les deux sont difficiles. La direction et la soumission ne sont pas non plus une conséquence de la chute. Comprenez ? C'est pas une conséquence de la chute. C'est un ordre que Dieu a établi depuis toujours. Il nous a créés à son image, hommes et femmes. Nous sommes donc égaux en valeur, Le rapport de subordination n'affecte jamais la valeur d'une personne. Ça n'est pas le grade d'une personne qui fait sa valeur. On peut être un mauvais général et un bon sergent. Pourtant, le sergent est subordonné au général. Je devrais dire, le bon sergent est subordonné au mauvais général. De plus, en nous créant à son image, Dieu a respecté, semble-t-il, une dimension propre à la Trinité depuis toute éternité. Il y a un ordre au sein de la Trinité. Je lis en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef, la tête de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Donc il y a une soumission, une direction et une soumission au sein même de la Trinité. Ce que la chute, par contre, a provoqué, c'est la perversion de la direction et la perversion de la soumission. Et depuis, le mariage est un combat. Le mari refuse parfois la direction et il devient passif. Il dit « Non, vas-y, toi, décide. » Il est mou. Oh, il est tellement tendre qu'il en est mou. Il n'ose pas, il a peur d'assumer la responsabilité des choix. Des choix pour lesquels le Seigneur l'appellera à rendre compte. Et il n'est pas très gaillard. Parfois, c'est l'autre tendance des hommes, à cause du péché, il peut se saisir d'une direction, mais une direction tyrannique. Il en oublie d'avoir le caractère de Christ, humble et tendre. Et ça, c'est destructeur pour son foyer. La femme, de la même manière, elle peut parfois accepter une soumission. Mais quand la soumission est servile, c'est-à-dire sans joie, sans intelligence, alors elle n'aide nullement son mari. Elle n'est d'aucun soutien pour lui. L'autre tendance des épouses, c'est d'être intelligente, mais pour usurper l'autorité et la direction du foyer. Alors elle peut être parfois bobonne ou parfois manipulatrice. Le mari peut être parfois mou ou parfois macho. Je vous laisse faire les équations. Quand le macho rencontre la manipulatrice, c'est chaud. Quand le mou rencontre la bonne, il ne se passe rien. Mais c'est pas terrible. Quand le mou rencontre la manipulatrice, ça marche. On voit bien un peu la truc. Elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, d'ailleurs, pour manipuler. Mais ça ne peut pas marcher. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça n'est pas le plan de Dieu. Et la femme, quand elle doit prendre les commandes, elle devient malheureuse. Parce qu'elle n'a pas été préparée pour ça. Et lui, il n'arrive pas à suivre sa femme, même s'il est mou. Il ne prend pas la décision, mais il ne prend pas non plus la décision de suivre sa femme. Quand le macho rencontre la bonne, ça aussi, ça marche parfois. Mais vous voyez bien que c'est la direction qui trouve la servilité. Il n'y a aucune joie là-dedans. Le mariage doit refléter la gloire de Dieu. Il n'y a aucune gloire là-dedans. Il y a beaucoup de tristesse. Voilà donc nos rôles. Alors c'est quoi être la tête dans le foyer ? Pour vous, messieurs, c'est l'appel divin. C'est un appel divin pour un mari à assumer la responsabilité principale pour Christ dans son foyer, en tant que leader serviteur. C'est collé. Leader-serviteur. Christ est leader-serviteur. Il est aussi protecteur et pourvoyeur de son foyer. La Bible dit ici, il la dirige, il la nourrit et il en prend soin. Et ces termes s'appliquent à la fois au domaine physique, il dirige son épouse, il la protège, et puis il la nourrit. C'est plus souvent la femme qui nourrit le mari. Mais vous voyez la chose, il prend soin, il pourvoit à ses besoins. Et cela, c'est aussi valable dans le domaine moral et spirituel, bien entendu. Vous devez diriger vos familles sur le plan spirituel. Vous devez pourvoir. Vous devez protéger sur le plan spirituel. Si vous n'assumez pas ce rôle dans votre couple, vous mettez votre épouse en situation de stress et de vulnérabilité. Jamais Christ n'agit de la sorte avec son Église. Non, il sait où il la conduit. Il pourvoit à tous nos besoins. Il nous préserve de tout piège. Il nous porte. Et le fardeau qu'il met sur nous est doux et léger parce que c'est lui qui porte le plus. C'est quoi être une femme dans son foyer? C'est quoi être soumise? C'est l'appel divin. Entendez-vous? L'appel divin pour une épouse à honorer et à affirmer le leadership de son mari et de l'aider à l'assumer en y employant tous ses dons, tous ses talents. Dieu vous a équipés, mesdames, pour servir. Il vous a doté de tout un tas de talents pour les mettre à disposition, pour que votre foyer soit selon le plan de Dieu. Se demander s'il vaut mieux être l'homme ou la femme dans le couple revient à demander s'il vaut mieux être le père ou le fils dans la Trinité, ou pourquoi le Saint-Esprit n'est pas parvenu. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu pour mourir sur la croix au lieu du Fils? En réalité, une gloire égale revient à chacun pour avoir accompli un salut parfait. On peut aider son conjoint et accompagner son conjoint en reconnaissant que chaque rôle n'est pas toujours facile. Beaucoup d'hommes, par exemple, n'aiment pas porter cette charge et sont tentés de démissionner. Une bonne épouse peut l'encourager et l'aider à être l'homme que Dieu veut. Finalement, chaque conjoint dans le couple a l'occasion de jouer le rôle de Jésus. Par exemple, le mari regarde à Jésus pour voir la beauté de l'amour qui se sacrifie et pour imiter son courage et sa tendresse. Vous avez peur de diriger, vous avez peur de faire des choix. Regardez à Christ, vous allez et prenez courage en lui. Et puis la femme regarde encore à Christ, elle qui s'est soumise à son Père et qui a montré la beauté de la dépendance, même dans la faiblesse. Si ce n'est pas un affront contre la dignité, la valeur et l'égalité de Jésus pour lui de prendre le rôle de subordonné, alors toute femme peut savoir que ce n'est pas une dévaluation pour elle de jouer ce même rôle. Même Dieu dit qu'il est notre aide. Alors pensez. Ce n'est pas quelque chose de dénigrant que d'être l'aide de son mari. La troisième question, comment est-ce possible? C'est vrai, comment est-ce possible? Comment est-ce que je peux être capable de jouer ce rôle? Comment est-ce que je vais pouvoir faire cela? Il me semble que ça me dépasse. Qui est suffisant pour ces choses? Qui peut faire ça? Comment arrive-t-on à prendre son rôle au sein de son foyer? Et c'est là que l'introduction de l'apôtre Paul prend tout son sens. Il dit ici, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. C'est le prérequis pour vivre la vie de couple. Le prérequis, la première chose dont vous devez vous inquiéter pour pouvoir vivre la vie de couple, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Pour affronter les défis habituels du mariage, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin que le Saint-Esprit remplisse tout son ministère dans votre cœur pour que vous puissiez remplir votre ministère au sein de votre foyer. Vous n'y arriverez pas si vous n'êtes pas équipé du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle que l'on célèbre aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné. Il est venu dans nos cœurs et il veut remplir tous les domaines de notre cœur, tous les aspects de nos vies, pour remplir nos cœurs de la bonté, de la joie. Mais pas de cette joie que tout le monde est capable d'avoir quand tout va bien. Non, non, non. La joie qui vient du ciel, celle que l'on peut avoir quand tout ne va pas bien. C'est lui qui va remplir nos cœurs de douceur. C'est lui qui va remplir nos cœurs de bienveillance. Cette bienveillance qu'on va exercer quand l'autre ne l'a pas eue à notre égard. C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est là que c'est indispensable d'avoir le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas vivre la chose sans la puissance du Saint-Esprit. Que nous soyons mari ou que nous soyons femme, nous sommes appelés à vivre l'un pour l'autre et non pour nous-mêmes. Et ça, c'est une dimension qui est complètement étrangère à nos cœurs naturels. Nous voulons toujours vivre pour nous. Et c'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. Littéralement, il dit ici, continuez d'être remplis de l'Esprit en permanence, en permanence. Et nous, nous sommes souvent spirituellement à court de carburant pour vivre notre vie de couple. Alors la bonne chose, c'est de savoir où on trouve le carburant. C'est de savoir où retourner à la station pour être ravitaillé. Et ça, c'est retourner devant Christ, crucifié. C'est là qu'on a connu pour la première fois le Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit nous a été donné le jour où on a cru à l'Évangile. Alors revenez là tout le temps pour vous laisser remplir de la puissance du Saint-Esprit. Après avoir essayé toutes sortes de choses, comme ici il est dit, le vin même, le chrétien a appris que louer Dieu de tout son être, avec l'assurance de son amour manifesté par l'œuvre de Christ, c'est bien le carburant prévu pour faire fonctionner son âme. Si nous attendons de notre conjoint qu'il remplisse notre réservoir, comme Dieu seul peut le faire, nous lui demandons l'impossible. Ne demandez pas à votre conjoint ce que Jésus-Christ seul peut vous donner. Venez à Christ et laissez-vous remplir par son Esprit Saint. Il dit dans les versets 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Louer Dieu pour sa personne et pour son œuvre, rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses et se soumettre les uns aux autres, c'est cela, rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Pensiez que c'était une expérience extraordinaire? C'est une expérience ordinaire de la vie du chrétien. Louer son Dieu de tout son cœur. Le remercier en toute chose et accepter d'obéir. Il dit ici, verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors, je veux juste préciser une petite chose ici. le mot qui est employé ici, se soumettre, en grec, je parle sous contrôle de mon professeur, hypotasso, ça signifie toujours un lien de subordination. D'accord ? C'est un mot qui est employé dans l'armée. Il y a le chef et il y a les subordonnés. D'accord ? Donc, quand il dit ici « soumettez-vous les uns aux autres », ça ne signifie pas « un jour c'est le caporal qui décide, un jour c'est le général ». D'accord ? Ça ne signifie pas que le général est soumis au caporal et que le caporal est soumis au général. Non. Ça signifie simplement que le caporal, il se soumet au sergent, le sergent se soumet au major, le major se soumet au capitaine, j'en oublie peut-être, le capitaine se soumet au général. Et c'est jamais le contraire. Jamais. Ça n'est jamais le contraire. Donc, quand il dit « soumettez-vous les uns aux autres », c'est « soumettez-vous à ceux qui sont en position d'autorité sur vous dans l'Église ». Et c'est l'introduction à tout ce qui va suivre. Les versets 22 qui va parler jusqu'à la fin du chapitre, qui va parler de la relation dans le couple, la femme, et c'est ce qu'il dit juste après, « femmes, soyez soumises à vos maris ». Chapitre 6, premier verset, versets 1 à 3, c'est dans la famille. Enfants, obéissez à vos parents. Jamais le contraire. Je pense encore à ceux qui étaient là sur l'estrade. Jamais le contraire. D'accord ? C'est désastreux. Et puis, juste après, verset 4 jusqu'au verset 9, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Employés, soyez soumis à vos patrons. C'est jamais le contraire, je peux vous assurer. Les syndicats peuvent vous le dire. C'est jamais le contraire. Ça signifie donc qu'il ne s'agit pas d'une soumission réciproque dans les versets 21. Mais il se trouve que finalement, dans l'Église, tout le monde a l'occasion d'être soumis à quelqu'un. Tout le monde est soumis à quelqu'un. Les enfants sont soumis à leur patron. Je précise encore une autre chose. Quand Paul dit ici « Femmes, soyez soumises à vos maris », ça ne signifie pas que les femmes sont soumises à tous les hommes de l'Église. Non, vous êtes soumis à votre mari et ça c'est parce que vous l'avez choisi et que vous pouvez le faire joyeusement et intelligemment. Donc on est tous dans l'Église appelés à être soumis. Soumis dans les classes d'école du dimanche, soumis à un chef de chœur, soumis à un moniteur d'école du dimanche, soumis à un responsable de groupe de jeunes, soumis... voilà, c'est tout le temps. Et le pasteur, il est aussi soumis à l'Église et à son conseil. Tous, nous sommes soumis à une autorité ici-bas dans l'Église. La plénitude de l'esprit est nécessaire pour vivre une vie de couple qui illustre la relation de Christ et de son Église. Et la plénitude de l'esprit s'entretient en louant Dieu, en le remerciant pour toutes choses et en étant soumis, c'est-à-dire obéissant aux autorités. Regardez, faites le tour, cherchez des gens qui sont remplis de l'esprit. Vous allez trouver des gens qui louent Dieu, même les jours où tout va mal, qui le remercient. Même parfois pour les difficultés qu'ils traversent, et puis qui sont soumis aux autorités. C'est une protection que Dieu nous donne, et c'est une bénédiction d'être ainsi rempli de l'Esprit. N'attendez pas, et je termine avec cette pensée, n'attendez pas que votre conjoint soit rempli de l'Esprit pour l'être vous-même. Vous voyez la tendance qu'on peut avoir ? N'attendez pas qu'il accomplisse sa part pour accomplir la vôtre. L'ordre demeure pour vous, même si lui y a failli. Jésus est fidèle à ses engagements dans son rôle de chef, que son Église soit fidèle ou pas. Et puis, soyez ce que Dieu vous demande d'être pour votre conjoint, qu'il ou qu'elle le soit ou pas, parce que Jésus vous a aimé, alors que vous n'étiez pas aimable. Mais il vous a aimé pour vous rendre aimable, et c'est ce qu'il veut que vous puissiez vivre au sein de votre couple. Que Dieu vous bénisse et nous aide chacun à vivre cela et à préparer des foyers qui reflètent l'œuvre de Christ. Prions.